Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
Jacques, double actualité ce matin pour votre chronique. Vous évoquez le 1er mai 1968.
Voilà, double actualité à cause évidemment du cinquantenaire et du jour où nous sommes, Clara. Le défilé, effectivement, en 1968, renaît à Paris le 1er mai. Il avait été interdit depuis 1954 pour cause de guerre d'Algérie. Nous allons voir ça.
Avec plaisir, dans votre chronique.
On vous retrouve, merci Clara Lecoq-Réal, on vous retrouve à 8h pour un nouveau journal.
Le journal des idées, Jacques Munier.
Organisé à l'initiative de la CGT qui avait choisi de défiler avec le Parti communiste, le défilé du 1er mai 1968 rassemble pour la première fois depuis 1954 des dizaines de milliers de manifestants. Le lendemain, après de nouveaux incidents à Nanterre, le doyen décide de fermer la faculté. Mais à ce moment précis, nul ne se doute encore de l'ampleur qu'allaient prendre les événements que l'histoire désignera du nom de ce joli mois de mai. Et en particulier, à côté du mouvement étudiant, l'importance d'une mobilisation sociale partout en France qui débouchera sur la plus grande grève générale de l'histoire de notre pays. À la fin du mois, on compte en effet 7 millions de grévistes, rappelle Xavier Vignat dans le hors-série de l'Obs 68, le grand tournant. Sans qu'il y ait jamais de consigne nationale ni de comité central de grève comme en 1947, le mouvement se diffuse par la base et se généralise. Le spécialiste d'histoire ouvrière souligne la politisation d'un mouvement déclenché par la journée de grève générale du 13 mai à l'appel de l'ensemble des organisations syndicales pour protester contre la répression policière à l'encontre des étudiants lors de la nuit des barricades. Les débats sur la cogestion ou l'autogestion sont à l'ordre du jour et une nouvelle catégorie d'ouvriers accède à la parole, les jeunes, les femmes et les immigrés. L'occupation des usines se généralise. La tactique inaugurée par les grèves du printemps 1936 n'est pas une nouveauté, mais elle reste une transgression majeure car elle constitue, je cite, une violation de domicile interdite par la loi. Destinée à créer un rapport de force, l'occupation encourage le rêve d'instaurer un pouvoir ouvrier dans les usines. Et en mai 68, elle s'accompagne souvent de la séquestration de membres de la direction pour les obliger à négocier, comme à Sud Aviation à Nantes. Mais au final, les accords de Grenelle qui sifflent provisoirement la fin de la partie se révèlent décevant. Même si le relèvement du salaire minimum de 35% et la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise est à mettre à leur crédit. En revanche, pas de diminution de la durée hebdomadaire du travail et l'augmentation des salaires, 7% en juin et 3% en octobre, est modérée si on la compare aux 6 à 7% obtenus les années précédentes. Dans le contexte de prospérité des 30 glorieuses et suite à un mouvement d'une telle ampleur, le bilan est en demi-teinte. Mais le pli est pris et les luttes pour l'émancipation ouvrière se poursuivront pendant des années. Dans le numéro spécial de Marianne, mai 68, ça s'est passé près de chez vous, Aimé Albert, le secrétaire général de la CGT Renault de Billancourt, confirme « Ces discussions nationales n'ont pas pu régler les problèmes spécifiques à Renault, par exemple la suppression des contrats provisoires, de la clause anti-grève sur les primes. Les salaires, le SMIC était porté à Grenelle à 665 francs. Par mois et chez Renault, le minimum c'était 850. Donc l'augmentation de 35% du SMIC intégré à Grenelle, ça ne pouvait pas concerner les salariés de Renault. Mais la lutte la plus puissante, la plus massive, la plus longue dans l'histoire du mouvement social français a changé définitivement le rapport de force dans les années qui ont suivi. L'hebdomadaire Marianne donc affiche son parti pris dans ce numéro spécial. Nous préférons les récits des ouvriers de Peugeot, des paysans bretons, des lycéens de Marseille, des étudiants de Toulouse, aux souvenirs ressassés du syndicat des copropriétaires de mai 68. Hervé Nathan s'entretient notamment avec Olivier Filleul, l'un des co-directeurs de l'ouvrage collectif publié aux éditions Actes Sud sous le titre « Changer le monde, changer sa vie », qui brosse le portrait inédit de la France militante des années 70 à travers 5 villes, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Rennes. Une trentaine de chercheurs ont collecté les récits de vie de plus de 300 militants, actifs actifs entre 1966 et 1983. Ceux-là ne sont pas passés du Colmao au Rotary. La plupart sont restés fidèles aux idéaux de leur jeunesse. Pour tracer ce portrait de 68 arts ordinaires, les chercheurs ont constitué, à partir du fichier des militants révolutionnaires tenus à l'époque par les RG, un échantillon des personnes engagées, syndicalisme, féminisme, gauchisme. Olivier Filleul, professeur de sociologie politique à l'Université de Lausanne, résume les principaux enseignements de ce travail qui articule tant biographique et tant historique. Non, les 68 arts n'ont pas trotté les postes de pouvoir, bien au contraire, leur engagement militant les a souvent conduits à une forme de déclassement volontaire. Mais 68 ne fut pas, dans l'ensemble, une révolte d'enfants gâtés contre les pères, les familles et leurs valeurs. L'intérêt de l'ouvrage tient aussi aux évolutions des socialisations militantes qu'il met au jour. La mobilisation du Larzac, par exemple, ne défendait pas seulement un certain type d'agriculture et ne se limitait pas à l'antimilitarisme. Elle posait aussi des questions relatives à l'identité occitane ou à la sauvegarde de l'environnement.